France Inter, le 6-9 du week-end.
Alain Baraton, c'est un peu comme une fable hein, ce matin. L'éléphant, la fourmi et l'acacia.
Eh oui, j'avais envie de vous parler ce matin de la relation entre les plantes, les insectes et les mammifères pour rappeler à ceux qui nous écoutent si besoin en été que nous avons tous besoin les uns des autres et que la nature, ma foi, a besoin d'équilibre. Alors, j'ai déjà évoqué à ce micro les acacias d'Afrique, des arbres qui poussent dans la savane. Pour ne pas trop souffrir de l'attaque des herbivores, ils produisent une substance qui rend les feuilles toxiques, chose extraordinaire. Tous les arbres du bosquet, au même moment, deviennent impropres à la consommation. Et les gazelles, les girafes et les éléphants sont alors obligés de poursuivre leur chemin et cet éloignement donne du temps aux plantes pour se refaire une santé.
Et du coup, les scientifiques continuent de s'intéresser de très près à ces acacias.
Ils se sont livrés à une expérience qui a donné de bien curieux résultats. Pendant 10 ans, ils les ont protégés par des clôtures infranchissables. Les premières années, les arbres sont beaux, on peut même dire resplendissants. Mais au bout de 4-5 ans, les chercheurs constatent un dépérissement anormal des végétaux, la faute aux barbelés.
En quoi un grillage peut-il nuire à un arbre ?
Alors vous allez comprendre.
Costaud un arbre ?
Eh bien oui. La variété l'acacia qui vit en Afrique produit des épines creuses qui servent de refuge aux fourmis. L'arbre, vraiment généreux, produit ainsi et aussi du nectar pour les nourrir. En échange du gîte et du couvert, les fourmis éloignent les insectes qui seraient tentés de venir manger les feuilles, mais aussi les éléphants qui se méfient des fourmis car leurs trompes sont fragiles et ils détestent avoir des bestioles qui s'y promènent et les piquent. Mais à l'abri derrière leur clôture, les acacias ne sont plus menacés par les gros herbivores et ils se sentent en sécurité.
Et ils n'ont plus de motif d'abriter les fourmis.
Et en réaction, ils fabriquent moins de nectar et moins d'épines. Et c'est une erreur. N'ayant plus à manger, les fourmis à leur tour s'attaquent aux arbres, leur causant quelques dégâts. Puis, elles désertent les lieux. Une fois parties, d'autres insectes envahissent le branchage et s'en donnent à cœur joie et toutes les feuilles ou presque de l'arbre disparaissent. L'acacia se meurt et le constat est évident. Avant que les hommes n'interviennent, l'acacia donnait un peu mais recevait beaucoup. L'acacia, l'éléphant et la fourmi faisaient preuve de solidarité et partageaient les richesses. Et je constate une fois encore qu'il est souvent préférable de laisser faire la nature. Elle n'a pas besoin de nous.
La nature n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de la nature. Alain Baraton.
Oui, à propos de la nature, si vous le permettez, je voudrais que vraiment les auditeurs qui nous écoutent aillent sur le site du Monde lire le papier de Bougrain-Dubourg.
Un coup de gueule de Dubourg.
Oui, magnifiquement écrit sur la chasse, effectivement, et sur les conséquences.
Une question de Monique. Monique dit qu'à Paris, des jardiniers, en accord avec la mairie de Paris, ont aménagé le pied des arbres en mettant des buttes de terre pour planter et jardiner. Alors, ces buttes sont assez hautes. D'ailleurs, elles recouvrent le collet des arbres. On va rappeler ce que c'est que le collet. C'est entre la limite,
voilà,
entre les racines
la jonction,
et,
tout à fait, entre la partie,
le tronc.
Voilà, souterraine et extérieure.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense que les jardiniers de Paris sont des personnes extrêmement compétentes, qui ont de l'expérience, qui sont suffisamment nombreux pour échanger et que s'ils disposent effectivement des buttes de terre au pied des arbres, c'est qu'ils ont conscience des conséquences. Alors, si effectivement, ils créent de temps en temps des petits massifs aériens en enterrant le collet, mais pendant quelques temps, il n'y a aucune espèce de gravité parce que il faut du temps avant de nuire au végétal. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Les jardiniers de Paris, que je connais bien, sont des gens, je le redis, extraordinaires, qui généralement savent ce qu'ils font.
Nicolas voudrait savoir s'il peut mettre le crottin de son cheval directement au pied des rosiers ou bien s'il doit attendre un peu pour que ce crottin se décompose auparavant.
Bon, j'étais en train de m'imaginer notre ami en train de venir avec son cheval et de le positionner de manière à ce que ce soit directement fait au pied du rosier. Non, n'exagérons peut-être pas, mais il est vrai que le crottin de cheval frais est une brûlure conséquente pour les plantes, surtout jamais. L'idéal, c'est de le mettre à se décomposer en mélange avec du compost ou de la paille dans un endroit du jardin, et ensuite et seulement ensuite de mettre le purin au fond du trou. J'en profite pour rappeler qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'abandon des produits dits phytosanitaires pour le jardin, que l'on cesse également de toujours vouloir tout transformer, tout améliorer. Une plante bien choisie dans un jardin n'a pas besoin même d'engrais. Arrêtons de vouloir transformer la structure d'un sol, c'était jamais très bon. À partir du moment où vous mettez du crottin en grosse quantité,
on surjoue un peu.
Eh bien, un petit peu.
Mais on la fragilise, non ?
Ben complètement. Mmh. Et puis on la perturbe.
On la rend dépendante.
On la perturbe et on rend surtout des plantes extrêmement fragiles. Je parle par exemple souvent de l'arrosage intégré. Je n'aime pas toujours l'arrosage intégré. Et je dis, regardez une pelouse. Quand elle n'est pas arrosée de manière automatique, elle fait l'effort d'envoyer en profondeur des racines pour puiser puiser l'eau en l'absence, lorsqu'il y a l'arrosage intégré, les racines restent en surface. Moralité, 3 semaines de sécheresse, interdiction d'arroser, la pelouse va être fragilisée. Il en est de même pour toutes ces plantes à qui on donne sans arrêt, eh bien, de l'engrais. Le jour où il n'y en a plus, bah, c'est un peu comme vous, Eric, si vous avez l'habitude tous les matins de prendre un bon café, le matin vous n'en avez pas, bah, vous verrez la différence.
Ça, souvenez-vous-en.
Et vous le connaissez bien. Pierre nous dit que depuis plusieurs années, à l'automne, il voit son cerisier et les feuilles devenir marron, les feuilles de ce cerisier, les feuilles ne tombent pas. Pierre précise qu'il a déjà traité le cerisier avec de la bouillie bordelaise. Que faire ?
Eh bien, c'est certainement une maladie qu'on appelle le gnomania, GNO pour être exact. Voilà comment cette maladie cryptogamique commence. C'est un champignon favorisé par les printemps pluvieux et chauds, et les spores du champignon hivernent dans les feuilles restées généralement sur le végétal ou à terre. La première chose à faire, c'est tout de suite d'évacuer les feuilles à terre pour se débarrasser de ce contingent éventuel. Deuxièmement, que faire ? Eh bien, faire en sorte d'aérer le végétal avec un certain tact, et puis surtout d'arrêter d'arroser à outrance. Là encore, quantité de maladies aujourd'hui apparaissent dans les arbres de par nos modes de culture dans le jardin. Vous savez, le champignon, il peut être à proximité, mais il peut être favorisé par vos pratiques à 10, 15, 20, 50 mètres. Donc arrêtons de mettre trop d'humidité dans un jardin, évacuons les feuilles mortes à l'hiver. Ressortons le bon vieux purin de prêle. Voilà un produit naturel. Vous prenez de la prêle, on en trouve partout. Vous la laissez macérer. Quelques pulvérisations en automne et au début du printemps. Je dis pas que ça réglera le problème, mais ça devrait au moins l'atténuer.
Le dicton du jour, vive le purin de prêle, selon Alain Baraton.
Bah, oui.
Rapidement, Annie a une azalée sur son balcon vitré. Cette azalée fleurit depuis le printemps non-stop. Est-ce que c'est normal ?
Quand une plante ne cesse pas de fleurir, elle va mourir. Parce qu'elle a besoin de se reposer forcément, donc ce n'est pas normal. Il existe aujourd'hui des azalées qui ont été revues par les hommes et qui sont capables de fleurir tout au long de l'année, ou presque, et fleurir plusieurs fois de manière forte, mais il faut des repos végétatifs. Là, malheureusement, la plante, elle fait un peu la fière, elle risque vite de rabaisser son caquet.
Et vous n'aimez pas quand les plantes font les fières. Alain Baraton, elle fait sa fière. Je vois que vous avez une belle pomme en couverture de ce livre, c'est votre conseil lecture
et
du
oui,
jour.
Mathieu Micoulot, lui, ne fait pas son fière, et pourtant il pourrait le faire, il est très doué. Il a écrit un ouvrage passionnant, Pommes et cidre en pays d'Hôt. Alors, le pays d'Hôt, c'est entre Albi, je crois, et Lyon, l'Aube et Lyon. C'est une région de France que je connais, que j'apprécie beaucoup. Il y a des variétés fruitières étonnantes. Eh bien, cet homme a fait un bouquin exceptionnel à lire et c'est publié aux éditions de la Maison du Boulanger.
C'était la main verte d'Alain Baraton.